Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Direction l'Algérie ce jeudi pour le président français, une visite officielle qui se déroulera jusqu'à samedi prochain. L'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale, reviendra sur les relations entre les deux pays et sur le poids de la question mémorielle. L'ONU se dit profondément préoccupée par une montée des tensions entre rivaux politiques libyens. La mission d'appui des Nations Unies en Libye appelle à la désescalade immédiate. Le président somalien promet une guerre totale pour éliminer les terroristes Chebab. Sa première déclaration à la nation depuis la sanglante attaque le week-end dernier dans un hôtel à Mogadiscio. 24 février 2022, 24 août 2022, il y a 6 mois, le début de la guerre en Ukraine. 6 mois après le début de l'invasion russe, le conflit fait rage sans perspective de paix. Premier conseil des ministres après les vacances de l'exécutif, Emmanuel Macron a appelé à l'unité face à, a-t-il dit, la fin de l'abondance et de l'insouciance. Regard sur un roman dans votre édition, au-delà du simple souvenir, chez l'Harmattan, un ouvrage qui nous entraîne dans le nord du Maroc. Nous écouterons son auteur, Najib Harfaoui. Le président français entamera ce jeudi après-midi une visite officielle en Algérie, un déplacement à Alger et Oran jusqu'à samedi prochain. La délégation comptera 90 personnes, des élus, des représentants du monde économique, des représentants de culte ou encore des personnalités qui ont accompagné le chef de l'État sur la question mémorielle. Sur cette question et sur l'enjeu de cette visite en Algérie, entretien avec l'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale. Gilles Manceron.
C'est un déplacement important dont on peut attendre des avancées, si vous voulez. Alors, il y a bien sûr à l'ordre du jour différentes questions qui seront abordées. Il y a des intérêts dans le domaine des échanges économiques entre la France et l'Algérie qui seront certainement au menu des discussions. Mais en ce qui me concerne, c'est sur le passé colonial de la France en général et tout particulièrement en Algérie que je trouve que des avancées pourraient être aussi opérées par le président français, voire de manière bilatérale sur un certain nombre de questions.
Des avancées qui ont eu lieu notamment lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Oui, alors Emmanuel Macron s'est distingué des présidents français qui l'avaient précédé en déclarant sa volonté, avant même d'être élu en février 2017, de faire la lumière sur le passé colonial de la France. Il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Et ensuite, il a réitéré cette intention qu'il a mise en œuvre de manière extrêmement mesurée et à petits pas. Hein, puisque il a demandé à l'historien Benjamin Stora de rendre un rapport sur la question que plusieurs années après le début de son quinquennat. Et il avait certes en septembre 2018 fait un premier geste important en rendant visite à Josette Audin, l'épouse d'un jeune mathématicien français qui avait été assassiné par les militaires français qui l'avaient arrêté en 1957. Donc c'était un geste important, mais ce geste n'avait pas été suivi d'autres, contrairement d'ailleurs à ce que préconisait Benjamin Stora à la fin de son rapport. Il y a eu quelques autres gestes d'accomplis, mais très mesurés et espacé dans le temps pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et quel geste aujourd'hui pourrait, selon vous, contribuer à améliorer les relations?
Alors, il me semble que dans la qualification l'injustice coloniale, le président de la République pourrait être à nouveau clair. Ce serait important. C'est ce que lui a indiqué comme perspective le rapport de Benjamin Stora, si je puis dire. Hein. J'ajoute que ce n'est pas seulement à usage diplomatique. Ce n'est pas seulement une question bilatérale entre les deux pays. C'est aussi une question qui regarde le passé colonial de la France, la manière dont elle aborde sa propre histoire, hein, en la regardant en face ou en cachant un certain nombre d'aspects. Donc c'est le problème de la France avec son passé, et c'est le problème aussi de la société française.
Et cette clarté que vous souhaitez, elle devrait se traduire par quel mot ?
C'est au président de la République d'inventer ses propres mots, mais il pourrait aller plus avant, plus clairement, dans le sens d'une clarification de la volonté de la France de rompre avec une page de son passé qui n'est pas à son honneur. Elle a bien d'autres périodes dans son histoire dont elle peut être fière, mais en ce qui concerne le passé colonial, il a été marqué par beaucoup d'injustices, voire de crimes.
Et la question mémorielle reste une question centrale aujourd'hui dans les relations entre la France et l'Algérie ?
Oui, c'est une question importante. Indépendamment des instrumentalisations politiques côté algérien sur lesquelles on peut s'interroger, hein, et qui, ne le dissimulons pas, existent, il y a dans l'opinion algérienne une perception de la violence de la colonisation française qui est tangible, qui est fondée sur des histoires familiales très précises que les personnes entendent et dont ils sont, dont beaucoup d'Algériens sont encore porteurs. Donc il y a le passé constitue effectivement un point d'achoppement dans les relations entre les deux pays par rapport à leur normalisation souhaitable.
Et cela a un impact sur l'ensemble des dossiers, du coup.
Oui, bien entendu. Alors, il y a bien entendu des dossiers économiques relatifs au pétrole ou au gaz naturel qui seront abordés. Disons que sur cette question de la perception des deux pays l'un par rapport à l'autre, cela changerait beaucoup de choses, à mon avis, que le président de la République soit clair sur la qualification du passé colonial, pas seulement à usage externe, aussi à usage interne pour la société française, son unité et la compréhension de son histoire.
Et la société française n'est-elle pas divisée sur cette question ?
Bien entendu. Il a subsisté depuis la fin de la période coloniale une tendance nostalgique qui n'a pas admis la perte de l'Empire, comme selon les mots qu'ils emploient eux-mêmes, et donc reprochant au général de Gaulle, chef de l'État français en 1962, d'avoir trahi les intérêts de la France en acceptant l'indépendance de l'Algérie. Donc ce courant politique qui, ne le dissimulons pas, se confond largement avec l'extrême droite française, n'a pas disparu. Il s'est moins exprimé pendant plusieurs décennies après les indépendances, mais il a rejailli plus tard dans les années, nous le savons, 70, 80, 90. Et il est à l'étiage que nous connaissons aujourd'hui lors des élections présidentielles ou législatives. Donc, cette nostalgie coloniale est portée par ce courant et s'étend aussi à d'autres secteurs, la droite, voire certains secteurs de la gauche française ne sont pas désireuses de faire la lumière sur la réalité de cette page de notre histoire. C'est en cela que Emmanuel Macron se distingue, quelles que soient les qualifications qu'on peut avoir de sa politique dans différents domaines. Il me semble qu'il a marqué, à partir de son élection en 2017, une volonté de faire ce que les autres présidents n'avaient pas été capables de faire.
L'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale. Le président de l'autorité palestinienne a rencontré le président turc pour des discussions et un dîner privé, une rencontre une semaine après l'annonce par la Turquie et Israël du rétablissement total de leurs relations et du retour de leurs ambassadeurs respectifs. Le président turc assure que cette reprise des relations diplomatiques ne signifie pas un changement pour la Turquie de sa politique au Moyen-Orient. L'ONU se dit profondément préoccupée par une montée des tensions entre niveau politique libyen. La mission d'appui des Nations Unies en Libye appelle à la désescalade immédiate. La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement qui a entraîné la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 avec des pouvoirs rivaux, des milices armées et des mercenaires étrangers disséminés dans le pays. L'armée américaine affirme avoir bombardé des installations de milices pro-iraniennes dans l'est de la Syrie. Une annonce d'un porte-parole militaire, ces frappes ont visé, selon Washington, des infrastructures utilisées par les gardiens de la révolution liées au régime iranien. De son côté, l'Iran a nié tout lien avec les groupes armés visés par les frappes aériennes américaines. Le président somalien promet une guerre totale pour éliminer les terroristes Shebab. Sa première déclaration à la nation depuis la sanglante attaque le week-end dernier dans un hôtel à Mogadiscio. Attaque qui a fait au moins 21 morts et 117 blessés. Il s'agit de la plus importante attaque dans la capitale somalienne depuis que le nouveau président somalien a pris ses fonctions en juin dernier. 24 février 2022, 24 août 2022, il y a 6 mois, le début de la guerre en Ukraine, 6 mois après le début de l'invasion russe, le conflit fait rage, sans perspective de paix. Hasard du calendrier, l'Ukraine célèbre ce mercredi le 31e anniversaire de son indépendance. L'Ukraine se battra jusqu'au bout, sans aucune concession ou compromis avec la Russie, a lancé le président ukrainien lors de son adresse à la nation. Après 3 semaines passées au fort de Brégançon, le président français a réuni son gouvernement ce mercredi à l'Élysée pour un conseil des ministres. Pour le président de la République, nous vivons la fin de ce qui peut apparaître comme une abondance. Emmanuel Macron a parlé de la fin d'une forme d'insouciance. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, la guerre a repris depuis 6 mois en Europe. La crise climatique est là. Perceptible, nous vivons une grande bascule, selon les mots du président français. Entretien à présent avec l'écrivain Najib Arfaoui. Son dernier roman, Au-delà du simple souvenir, chez l'Harmattan, nous entraîne dans le nord du Maroc. Un roman où l'auteur évoque le souvenir de l'esclavage. Najib Arfaoui.
C'est un homme de 60 ans passé. Il est parti à la retraite après avoir perdu sa femme. Il était déprimé suite à la mort de cette femme et son départ à la retraite. Et retrouve une vieille photo de classe sur laquelle il y avait un petit diable, un enfant terrible qu'il appelait Negro quand il avait 10 ans. Il a ressenti, en regardant cette photo, la même vieille douleur et la même humiliation qu'il avait reçue quand il était petit. Et il décide à ce moment-là de procéder à une introspection qui va l'amener d'étape en étape à retrouver d'autres blessures très profondes. Cette histoire-là vient en résonance avec un sentiment de révolte qu'il avait déjà contre l'injustice faite aux femmes, par exemple, aux enfants mendiants, quand il les voyait retirés de leur famille et qui devenaient boniches au Maroc. En fait, ce n'est pas un essai sur le racisme, ni même une réflexion philosophique. C'est juste une histoire, une fiction, alimentée par un racisme ordinaire, des préjugés, des pensifs, qui semblent indolores au départ, mais qui aboutissent le plus souvent aux détestations entre individus et nous entraînent à la déshumanisation de l'autre qui est différent.
Alors votre roman évoque l'esclavage. C'est un devoir de mémoire pour vous de parler de ce sujet ?
Oui, que mon grand-père avait des esclaves et une en particulier qui s'appelait, celle-ci s'appelait Malhambar. Alors j'ai changé de nom puisque le personnage n'est pas tout à fait le même et je ne connais que très peu de choses sur ces Malhambar. Je l'ai rencontré quelques fois avec ma mère. Elle était toujours très gentille, elle m'embrassait beaucoup et elle me donnait des bonbons et des choses comme ça. Ça c'est ce qui restait de mes souvenirs. Mais en discutant un jour avec quelqu'un à Tanger et on parlait de l'histoire et de l'esclavage, il semblait nier l'existence de cet esclavage. Ça m'a donné envie de rappeler au monde, enfin de mettre sur la table un sujet de discussion. Parce qu'on n'a pas le droit d'oublier que
nous étions, nos ancêtres étaient esclavagistes, et qu'est-ce qui reste de ça en nous? C'est ça que je voulais simplement montrer, je crois, comment une humiliation d'un enfant peut se loger si profondément en nous, prendre racine, se développer, s'étendre jusqu'à nous empêcher de vivre. Cette introspection aboutira à une exigence, cette exigence de vérité, et dans mon esprit, la vérité peut guérir.
Alors, votre roman est ancré dans le Maroc du Nord. Tétouan et Tanger, ce sont deux villes que vous connaissez, que vous aimez.
Oui, oui, absolument, parce que je suis originaire de Tanger. Je suis né à Tétouan, c'est une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre, comment j'ai pu cacher pendant longtemps que je suis né à Tétouan, puisque entre Tétouani et Tangérois, il y avait une espèce de guerre sourde entre deux villes qui étaient distantes de 60 km.
Alors vous êtes né en 1943, vous êtes arrivé en France en 1965, et au-delà du simple souvenir est déjà votre quatrième roman depuis 2017. C'est au moment de votre retraite que vous avez commencé à publier des romans. Qu'essayez-vous de transmettre à travers vos livres?
J'ai peur que les souvenirs ne deviennent qu'une sorte de nostalgie. J'ai de moins en moins de nostalgie puisque les souvenirs que j'avais disparaissent au fur et à mesure puisque ma ville, Tanger, se développe, devient une espèce de petit New York. Je ne reconnais plus rien. En quelque sorte, je voudrais surtout parler de ces souvenirs qui marquent.
L'écrivain Najib Arfaoui, son dernier roman, Au-delà du simple souvenir, publié chez L'Harmattan, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.